BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Nous sommes vendredi et c'est BFM Patrimoine qui, comme chaque jour, ouvre ses portes pour vous accueillir pour deux heures d'expertise liées au monde de votre argent. Toutes les meilleures informations pour que votre patrimoine puisse fructifier. Et on file tout de suite sur les marchés. Antoine Larigauderi, bon, c'est loin d'être assuré.
Oui, on peut le voir comme ça, mais de toute manière, la semaine aura été particulièrement instable et le CAC 40 n'arrive pas à accrocher une tendance haussière vraiment nette. Hein. On le voit, on est en léger repli, moins 0,25% à 5921 points. Pour l'indice parisien, on a des baisses un petit peu plus prononcées du côté de l'Eurostock 50 qui recule de 0,5% et moins 0,4% pour le DAX à Francfort. Et encore, tout cela est bien payé au vu des déséquilibres et de la volatilité sur les marchés de taux et sur l'obligataire, ainsi que sur le marché des changes. Du côté des dettes 10 ans, on s'est quand même très très largement tendu. 2,73 hein, pour la dette française 10 ans désormais, 2,14 pour la dette allemande, puis alors surtout la dette italienne qui a dépassé tout à l'heure les 4,6%. On est redescendu à 4,57 désormais, mais du coup l'euro est fragilisé et il est toujours sous les 98 cents face au dollar. Hein. On semble être attiré vers les plus bas annuels. On a fait des plus bas à 0,95-96. Hein. On est en ce moment donc à 0,97-96. 96 des points de fragilité sur l'euro, sur la solidité des finances des pays de la zone euro. Et ça reste un vrai problème, avec aussi un brut qui a tendance à forcir sur les marchés pétroliers. Le Brent, $94.74, et on est quasiment à 89 sur le brut léger américain. Donc vous voyez un cocktail un petit peu détonnant sur les marchés avec cet affaiblissement de l'euro, ces fortes tensions sur les taux des dettes européennes, et puis des marchés actions qui, au milieu de tout ça, vont essayer de résister. Mais ça reste quand même un petit peu difficile, d'autant que le principal point en ce moment, ce sont l'ensemble des valeurs de croissance qui sont atteintes de plein fouet par ces fortes tensions sur le marché obligataire. On a ST Micro qui recule de 3% à 34,49 €, hein, malgré des nouvelles encourageantes dans le secteur des semi-conducteurs, en particulier la très forte hausse des ventes du géant de Taïwan TSMC. On a Soitec d'ailleurs dans le même secteur qui recule de 2,5% à 125,75 €, mais toute la techno européenne est atteinte. À Capgemini, moins 2% à 167,60 €, Dassault System, moins 56 à 36,28 €. À noter également les valeurs du luxe qui sont mal orientées, et ça c'est un poids hein, évidemment singulièrement à Paris. Hermès moins 1,3% à 1279 € et Kering moins 1,2% à 450,55 €. Plus forte baisse du SBF 120, c'est Ubisoft qui recule de 3,6% à 27,82 €, mais on a quand même pas mal de compartiments de la cote qui réagissent bien et qui résistent bien. Renault qui gagne 3,8% à 30,36 €. On a également Total Energy qui gagne 1% à 51,82 € dans le sillage des prix du brut. Et puis le secteur bancaire, pas trop mal orienté. Société Générale, qui en particulier prend 0,9% à 21,32 €. Le CAC, donc sur une légère baisse, mais enfin, forte tension encore une fois sur l'obligataire, baisse de l'euro, un cocktail un petit peu particulier. Le CAC 40 qui reste en repli, moins 0,3%, 5919 points.
Antoine Larigauderi à 10h04, l'heure de retrouver l'info éco avec Claire Sergent.
BFM Business. L'info éco.
Et à la une de l'actualité économique ce matin, cette réunion des 27 aujourd'hui pour débattre d'un plafonnement des prix du gaz. Les chefs de l'État de l'Union européenne se retrouvent à Prague. Des représentants ont déjà averti. Il est peu probable que des mesures concrètes soient décidées directement. Il faut mettre tout le monde d'accord d'abord. La France fait partie de ceux qui vont militer pour le plafonnement. Écoutez, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement sur BFM TV.
D'abord, il faut un traitement de fond. Le traitement de fond, c'est plafonner le prix du gaz, c'est découpler le prix du gaz et de l'électricité, notamment lorsque l'électricité est produite à partir du nucléaire. C'est ce qu'a travaillé d'arrache-pied le président de la République française au niveau de la Commission européenne. Nous avons désormais une position européenne très claire. Nous nous harmonisons avec les Asiatiques qui font face aux mêmes difficultés et nous demandons aux pays producteurs, notamment la Norvège et les États-Unis, de faire en sorte que les prix que nous ayons à payer ne soient pas quatre fois les prix du marché.
Et dans ce contexte, le déficit de la France se creuse encore. Il s'établit à 15,3 milliards d'euros fin août. Selon le Bureau des douanes françaises, c'est un demi-milliard de plus que fin juillet. Les États-Unis cherchent la réponse appropriée à Riyad, l'Arabie Saoudite et ses partenaires de l'OPEP+, qui ont décidé de baisser drastiquement leur production de pétrole, alors que Washington souhaitait l'inverse. Anthony Blinken, le secrétaire d'État aux affaires étrangères américain, étudie plusieurs réponses et consulte le Congrès. Parmi les pistes évoquées, couper les ventes d'équipements militaires aux Saoudiens. Dans l'actualité des entreprises, l'affaire Twitter contre Elon Musk, les deux camps ont jusqu'au 28 octobre pour s'entendre. Alors que le milliardaire a annoncé il y a deux jours qu'il voulait en fait toujours acheter le réseau social au prix convenu. Au départ, la méfiance règne. Twitter ne renonce pas à son procès. Le juge leur accorde donc 10 jours de plus pour trouver un accord. Et puis les profits de Samsung qui baissent pour la première fois en 3 ans. Le géant sud-coréen des smartphones est à son tour rattrapé par le ralentissement économique. Ses profits opérationnels reculent de 32% au troisième trimestre à un peu moins de 8 milliards d'euros.
Merci Claire. Claire Sergent, que l'on retrouve dans une heure pour suivre cette actualité économique. D'ici là, on s'intéresse à vos placements.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Notre guide ce matin dans la côte parisienne, c'est Sid Bachir, que l'on retrouve chez Orland Corporate. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous. Vous nous proposez un coup d'œil sur Infotel. Ce matin, on commence par un petit portrait.
Absolument, je vais vous parler d'Infotel qui est une valeur favorite chez Orland Corporate. C'est une ESN spécialisée dans la gestion de bases de données, mais également dans le développement applicatif. Ils ont publié au mois de septembre des résultats en forte amélioration pour les 6 premiers mois de l'année. Alors si on revient un peu sur l'activité, c'est une ESN qui est cotée en France, qui fait partie des ESN les plus performantes en matière de croissance et de marge. C'est principalement lié au business model qui allie services et édition de logiciels. Donc sur l'historique, on a vraiment un niveau de croissance élevé, autour de 9-10%, et qui est porté essentiellement par son prix-produit, mais également de la proximité que la société a avec ses clients. Alors sur son activité service, qui représente tout de même 95% du chiffre d'affaires, Infotel répond aux appels d'offres de très grands comptes sur des secteurs divers comme le transport, la banque et l'assurance. Ils ont de très bons chiffres sur cette activité de service, avec un taux d'intercontrat de 0,9%, ce qui est faible, mais également une bonne dynamique de recrutement avec plus de 268 personnes qui ont rejoint le groupe sur les 6 premiers mois de l'année, alors qu'on sait que le secteur connaît actuellement de fortes tensions sur le recrutement. On peut parler également des sous-traitants. Il dispose aujourd'hui de plus de 1200 sous-traitants, ce qui lui offre suffisamment de flexibilité pour aller chercher de la croissance, mais également de totaliser un effectif de plus de 3000 personnes à la fin du mois de juin. Sur sa deuxième branche, qui est l'édition de logiciels, le groupe génère 5% de son chiffre d'affaires. C'est une petite branche, mais elle est très intéressante car elle permet de générer une marge opérationnelle qui est 4 fois supérieure à celle des services et donc d'avoir un levier significatif sur ses marges. Si on reprend la publication pour les 6 premiers mois de 2022, ils ont annoncé une croissance de plus de 15% et une marge opérationnelle de 9,5%. Donc c'est vraiment parmi les meilleurs élèves de la cote à Paris, en tout cas pour le secteur des ESN. Et à plus long terme, ils ont donné un objectif de 380 millions d'euros en 2026 et une marge supérieure à 10%. C'est une ambition qui est soutenue, mais au vu des trajectoires que la société prend, on pense, nous, que la dynamique sera bonne. Autre point à souligner, c'est la génération de cash. Si on fait la moyenne du free cash flow moyen des 3 dernières années, on arrive à 27 millions d'euros. La société, elle bénéficie d'une trésorerie nette de 100 millions d'euros. Donc, c'est une véritable cash machine. Et ce cash, il permet, dans un premier temps, de payer du dividende, ce qui n'est pas négligeable, mais surtout, il devrait permettre de réaliser des acquisitions. Le dernier point qu'on peut regarder, c'est également la valorisation. Aujourd'hui, la société se paye 7,8 fois son résultat opérationnel 2023 contre 11 fois pour le secteur. Donc, on a vu que la société avait de très bons fondamentaux, mais elle est peu cher payée. C'est pour toutes ces raisons que nous, on est très positif sur Infotel. On a un objectif de cours à 64 euros et forcément une recommandation à l'achat.
Merci beaucoup d'avoir éclairé ce matin Infotel. Sid Bachir depuis Orland Corporate. Le marché parisien perd 0,19%, 5 925 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Patrice Gautry est en duplex avec nous depuis l'Union Bancaire Privée. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous comme chaque vendredi. C'est la journée de l'emploi américain. Qu'attendez-vous ?
Oui, alors des créations d'emplois qui devraient rester soutenues. Le consensus attend à peu près 250 000, 260 000 créations d'emplois après les 315 qui avaient été publiées donc le mois dernier. Quand on regarde l'évolution des indicateurs liés à l'emploi donc sur le dernier mois, on a vu effectivement que les demandes hebdomadaires de chômage avaient fortement baissé. Donc le dernier chiffre a été un rebond rapide, mais par contre, tout le mois passé, on a eu des chiffres qui étaient relativement bas. Et les composantes emploi, telles qu'elles ont été, jugées ou vues par les entreprises dans le secteur manufacturier comme dans celui des services, donc restaient plutôt positives, même si les indices globaux, PMI, étaient en ralentissement. Donc au total, ça devrait être des chiffres d'emploi qui restent encore relativement bons, mais qui montrent un ralentissement graduel. Alors on peut avoir une saisonnalité, faire attention, là je mets un petit bémol à ce que je viens de dire, la saisonnalité de mois de septembre est parfois pas à l'avantage donc des chiffres, c'est-à-dire on pourrait avoir des chiffres relativement faibles.
Voilà donc quelques idées à avoir sur ces questions d'emploi américain. Il y a aussi eu de la communication de la part des banques centrales. Qu'est-ce que vous en retenez ?
Oui, alors communication qui a été intergroupée de la part des banquiers centraux donc américains qui ont rappelé qu'il n'y avait pas de pivot à l'horizon et que pour l'instant la lutte contre l'inflation primait, et c'est-à-dire qu'il y aura encore d'autres hausses de taux. Du côté de la Banque Centrale Européenne, on a eu la publication des minutes qui montrait que l'ensemble des gouverneurs s'étaient ralliés, je dirais, à un scénario de hausse de 75 points de base, même s'il y avait des vues divergentes. Et pour l'instant, l'actualité restera certainement encore à des hausses relativement soutenues, avant que des chiffres plus dégradés de l'activité ou de l'emploi ne mettent à mal, je dirais, ce consensus sur le rythme des hausses de taux. Donc au total, des banques centrales qui devraient rester accrochées à une stratégie de hausse d'intérêt soutenue à très très court terme.
Voilà donc pour les questions de banque centrale. Un petit mot aussi, alors on est à la frontière de la macro et de la conjoncture, mais aujourd'hui les questions énergétiques occupent une vraie place dans toutes les préoccupations, et on a vu à Prague les Européens causer d'énergie. Quelle lecture en faites-vous ?
Oui, il y a une négociation qui est intéressante au niveau des 27 pays de l'Europe. Et il y a effectivement deux points à retenir. D'une part, la volonté politique de mettre en place un système dans lequel les prix de l'énergie, ceux du gaz et peut-être aussi ceux du pétrole, seraient avec, je dirais, un plafond. Donc après, bien entendu, on aura les modalités techniques de la mise en place de ce plafond. Et puis d'autre part, et je dirais, une action conjointe sur l'approvisionnement, les achats et, les contraintes liées à l'énergie. Donc cela pourrait avoir effectivement, on verra au fil de la journée quelles sont les conclusions donc de cette réunion, mais je dirais sur les mois à venir, on peut avoir des conclusions importantes en matière d'évolution de prix de l'énergie et in fine pour savoir si l'Europe aura froid ou pas donc cet hiver. Et ça, c'est des enjeux qui sont stratégiques, qui ne sont pas seulement pour cette année, mais qui sont aussi pour le moyen terme. Donc à suivre avec beaucoup d'intérêt.
Voilà donc pour les événements de cette semaine. Et puis, comme chaque vendredi, on feuillette votre agenda, Patrice, pour essayer de discerner quels sont les événements qu'il faut noter la semaine prochaine. Qu'avez-vous retenu ?
Deux éléments. Donc, encore l'actualité américaine qui dominera avec, bien entendu, donc, l'évolution des prix. Les prix totaux devraient peu progresser et afficher un ralentissement à 8% sur un an. Par contre, on sera encore vigilant sur les prix cœur, hors énergie et biens alimentaires, qui devraient probablement progresser de 0,5% sur le mois et afficher des hausses encore proches de 6,5%. À suivre aussi les retail sales, donc les ventes au détail, qui probablement rester plutôt bonne, c'est-à-dire que l'économie américaine est dans un ralentissement de la demande, mais un ralentissement relativement progressif.
Merci beaucoup Patrice. Patrice Gautry et l'Union Bancaire Privée qui nous accompagne chaque vendredi depuis Genève. Bonne fin de journée et bon week-end du côté de Genève. Le marché parisien lui perd 0,11%, 5 929 points.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO.
Bonjour Marie-Cœur de Roy.
Bonjour Cédric.
On accueille ce matin Thierry Vignal pour Mastéos. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints pour causer d'un sujet qui passionne Marie.
Oui.
Les passoires énergétiques. Parce qu'elle rêve d'y investir. Ça devient récurrent, ce sujet des passoires énergétiques ?
Il y en a pas mal, en effet. Il y en a. C'est un logement sur trois. Hein. Alors, si on compte que les F et G,
c'est 22%. Enfin, c'est un peu moins de 20%. Mais si on compte les E qui seront interdits en 2034, c'est un logement sur trois. Donc ça concerne pas mal de Français, dont la moitié dans le parc privé. Et on rappelle que le logement, c'est 30% de l'empreinte carbone française. Donc il y a des vrais enjeux à les rénover. Si je rénove une passoire en G, de G à D, j'économise 6 tonnes de CO2 par an. C'est 12 Paris-Milan en avion. Donc,
c'est pas mal la comparaison de
D'habitude, c'est terrain de foot. Bon, là, on va faire du Paris-Milan.
Oui, mais on ne peut pas le faire avec ça.
Donc, l'objectif du gouvernement de mettre fin à ces passoires thermiques d'ici 2025 pour les G, 2028 pour les F, 2034 pour les E est tout à fait louable. Malheureusement, ça me paraît assez irréalisable en l'état. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, parce que c'est très cher. On ne s'en rend pas forcément compte à quel point c'est cher. En fait, une isolation, par exemple, qui représente quasiment la moitié d'un programme de rénovation énergétique, en tant que tel, ça coûte pas très cher. C'est 70, 100 euros du mètre carré, c'est de la laine de verre, on grossit le mur de 10 cm. Mais le problème, c'est qu'on va coller 10 cm sur un mur, sur lequel il y avait des prises électriques, du placo, de la peinture, un radiateur. En fait, il va falloir sortir tout ça. Donc, il y a le chauffage qu'on sort, la tuyauterie du chauffage, la plomberie, on a la plinthe, on a l'électricité, il faut sortir les prises. Ensuite, il faut refaire le placo, il faut refaire le sol, il faut faire la peinture. Au plafond également. Voilà. Donc en fait, il y a tous les corps d'État qui sont
affectés.
C'est la côté qui coûte. Et le grand malentendu dans cette affaire, c'est de croire que la rénovation énergétique n'est que de la rénovation énergétique, alors que c'est de la rénovation globale. Et donc, c'est 1 000 euros du mètre carré, une rénovation en France. Donc, les aides de l'État, par exemple, MaPrimeRénov, les C2, elles sont mal calibrées parce qu'il y a ce malentendu. Et les Français n'ont pas le budget pour faire les rénovations. Et c'est vraiment le moindre des problèmes.
Mais vous, vous en rendez compte, pour rester juste déjà sur ce budget, vous vous en rendez compte, puisque vous, chez Mastéos, vous faites de l'investissement locatif, donc vous savez ce que c'est quand on est propriétaire-bailleur, qu'on est face à ces échéances et qu'on est obligé, finalement, de faire ces travaux, sinon on vend. Vous vous rendez compte de ces difficultés-là, des propriétaires-bailleurs, à anticiper, à avoir les moyens financiers, purement et simplement, pour mener ces travaux à terme ?
Là, en fait, ils les ont pas, tout simplement. Donc, il n'y a pas de solution de financement viable en l'état. Il y a des aides. Elles représentent 20, parfois 25, 30% du chantier. Le problème, c'est que pour les obtenir, il faut passer par une entreprise agréée RGE, reconnue garante de l'environnement. Il y en a très peu en France. Il y en a que 10%. Donc, sur 10 artisans, il y a un artisan RGE. Il y a une vraie pénurie. Et cette pénurie, elle profite à ces entreprises qui ont tendance à monter leur prix d'au moins 20%, ce qui annule l'effet des aides. Clair. Et finalement, parfois, ça revient moins cher de passer par une entreprise normale sans les aides que par une entreprise RGE avec. Donc, on a un vrai problème de financement. Les éco-PTZ, les primes rénov, etc., c'est un peu léger parce que ce qui compte, c'est la durée du financement. Ouais. C'est pas tant le taux d'intérêt en tant que tel. C'est la durée. En fait, on emprunte pour des rénovations énergétiques sur 72 mois en moyenne. C'est 6 ans. Ça fait des mensualités quasiment à 1 000 euros. Ouais. C'est 2 loyers. C'est pas possible. 30% des Français ont que 100 euros à allouer par mois à la réno énergétique. Ils envisagent 2500 euros de dépenses globales pour ce sujet, alors qu'un chantier moyen, c'est 25 000 euros.
Bon, donc ça veut dire qu'on va dans le mur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Ça veut dire que... Enfin, voilà, parce que depuis des mois qu'on cause de ce sujet des passoires, on remue tout dans tous les sens en se disant qu'est-ce qu'il y a. C'est on arrête, on reporte.
Alors il y a un petit. Je pense qu'on va anticiper un report comme on l'a fait pour l'audit énergétique de août à avril 2023. La solution déjà, c'est d'améliorer le financement. Donc de faire un espèce de PGE énergétique, on l'a fait pendant le confinement, il faut trouver un nouveau produit bancaire avec des durées sur 20 ans, sinon on ne peut pas étaler les mensualités, et améliorer la fiscalité. L'avantage des travaux, notamment de rénovation énergétique, c'est l'amortissement déductible que ça génère. Donc c'est 1 euro dépensé, c'est 1 euro déductible. Il faut que 1 euro dépensé, ça soit 2 euros déductible. Et enfin, il faut investir dans la formation. Il faut rendre le métier d'artisan rénovation énergétique sexy. Il faut qu'on puisse le mettre sur Tinder et en être fier, comme on l'a fait pour l'école 42, les devs. Voilà, il faut que cette filière soit une filière d'excellence, parce que c'est l'avenir. L'énergie est notre avenir.
Mais là, on le voit bien, Thierry. Enfin, moi, je sais que l'autre fois, j'avais contacté un diagnostiqueur qui m'expliquait justement que la difficulté, au-delà même des coûts, etc., c'était aussi la main-d'œuvre. C'est-à-dire que je pense que les gens, les jeunes aujourd'hui, ils ont parfaitement conscience qu'effectivement, c'est un métier d'avenir, au point que, typiquement, vous parliez de l'isolation. Ce diagnostiqueur, il me disait, l'isolation par l'intérieur, ça peut prendre une semaine, 10 jours. Hein. Le problème, c'est trouver l'artisan qui va pouvoir aller au bout du chantier, en fait. Et ça peut prendre plusieurs mois, quoi.
Alors, ça, c'est le problème calendaire. Une pompe à chaleur, il faut compter 6 mois pour l'obtenir. Il y a un problème de contraintes techniques. On ne peut pas installer pompe à chaleur n'importe où. En plus, il faut des autorisations dans tous les sens. C'est une pompe à chaleur qui est vraiment la pierre angulaire d'une rénovation énergétique. Il faut un bloc externe, donc un accord de copro, parfois un accord de mairie Bâtiment de France.
Alors, ça, je fais une petite parenthèse quand même, Thierry. C'est que tous les travaux de rénovation énergétique qui permettraient de sortir un bien de l'état de passoire thermique et qui sont soumis à l'accord global d'une copro, s'il n'y a pas d'accord de la copro, a priori, les obligations, entre guillemets, ne s'appliquent pas. C'est-à-dire que l'État a pris conscience quand même que certains propriétaires bailleurs étaient dépendants des petits camarades et que s'ils ne voulaient pas voter les travaux, bah, ils se retrouvaient le bec dans l'eau, ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent pour leur propre logement. Oui. S'ils sont dépendants des autres, malheureusement, voilà.
Et donc, c'est le cas, parce que les passoires thermiques, on les retrouve dans les petites surfaces, notamment dans les immeubles en région parisienne.
Les immeubles haussmanniens, évidemment.
Et voilà, et la plupart des prestations de réno énergétique dépendent de la copro, isolation par l'extérieur notamment, les chauffages centraux, etc.
Du coup, vous dites quoi, vous, à vos propriétaires, en fait ? Comment ça se passe ? Enfin, vous dites, bon, bah, de toute façon, on ne peut rien faire, donc on va attendre et on va voir.
Alors, nous, dans le sourcing de produits locatifs chez Mastéos, un logement qu'on trouve sur trois est une passoire thermique, ce qui correspond au stade français. Ouais. Déjà, on modélise financièrement en amont, hein, y a pas de surprise, on sait chiffrer des travaux de réno énergétique. Et bon, y a quand même des avantages à le faire. Déjà, y a une économie dans les charges courantes.
Ouais.
Y a de l'amortissement travaux qui permet de défiscaliser, de déduire. Et ça permet à la négo de faire de superbes affaires sur les passoires thermiques. On peut négocier en moyenne 15% et à l'approche...
De décote au moment de l'achat. Décote, ouais.
Et chaque lettre gagnée, ça fait 5% de plus-value en moyenne.
Mais donc, ceux qui sont déjà chez vous, Thierry ?
Alors ceux qui sont déjà chez nous, on est une jeune boîte, on a 3 ans, donc on a vu la régulation venir, la réglementation. Et donc on avait chiffré les chantiers depuis déjà pas mal de temps. Donc il y a peu de surprises en l'état. Mais sinon, c'est vrai, il y a quelques cas où il faut aller chercher un financement, je ne sais pas où. Et donc, il y a un sujet. Donc
mais je me souviens, Stéphane Descartiers nous disait, par exemple, que là aussi, c'était un peu l'angle mort de la réglementation. Je parlais du fait de ne pas avoir l'accord de la copro, ça pouvait permettre d'échapper, entre guillemets, à l'obligation. Et il y a un autre truc qui échappe à l'obligation, c'est Airbnb, quand même.
Ouais, c'est vrai. Et ça, interdit c'est dans
pas...
les grandes villes.
Ouais, mais ça, du coup, comment on l'anticipe, justement? Parce que vous ne faites pas du Airbnb, vous faites de la vraie location. Enfin, ouais. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlent les propriétaires bailleurs en disant, bah, ce tarif-là, c'est bon, moi, j'arrête
Non, parce que déjà, c'est pas très connu. Et puis, nous, on le propose pas. Je pense qu'il faut attaquer le problème de front et se dire, c'est l'occasion de générer de la plus-value, de valoriser le bien. En plus, il y a une vraie... il y a un vrai objectif écologique qui peut donner du sens au projet. Mais non, il n'y a pas de stratégie d'évitement. Il faut se prendre le truc face nord, faire les travaux et espérer que l'État nous aide sur la fiscalité, sur le financement. Mais plus globalement, profite de cette situation pour faire de la France un leader sur la rénovation énergétique. C'est une occasion en or, c'est un marché gigantesque. Il y a 10 millions, 11 millions de passoires thermiques à 25 000 euros le chantier, donc c'est un marché à 250 milliards en France, fois le nombre de pays concernés. C'est un des plus gros marchés qu'on puisse imaginer. Ça crée de l'emploi, il n'y a pas de filière aujourd'hui de formation, il n'y a pas de filière d'excellence. C'est le moment d'investir dans la formation et dans la recherche et le développement.
Donc vous, votre conseil, c'est je suis propriétaire bailleur, j'ai une passoire thermique, je me débrouille quand même pour faire les travaux parce que ça vaudra le coup.
Bah, une fois qu'on l'a et qu'on n'avait pas prévu, c'est vrai que c'est une situation compliquée et donc il faut être créatif. Soit on revend et on se dépêche parce que plus on approche des dates butoirs, plus il y a de la décote. Soit on, il y a plein de solutions. Enfin, on peut repartir sur un projet, renégocier un prêt travaux, du différé de remboursement. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. Quoi. Il faut être créatif sur le financement.
On augmente
il y a pas
les
de solution
loyers
miracle.
Ou pas ?
Non, on peut pas augmenter parce qu'ils sont plafonnés.
Oui, oui, oui.
Le Airbnb, c'est interdit dans la plupart des grandes villes et les loyers sont plafonnés. Donc vraiment, il n'y a pas de solution miracle. Il y a de la créativité, mais faut l'anticiper, faut en profiter quand on est à l'achat. Et à l'échelle plus globale, il faut que l'État comprenne que il y a les objectifs servent d'idéal régulateur, mais sont pas tenables en l'État parce qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas les connaissances techniques, on n'a pas le cadre réglementaire pour favoriser ce genre de rénovation énergétique. On n'a pas le financement. Voilà.
Bon, mais je pense que c'est ceux qui sont propriétaires bailleurs, on ne va pas se le cacher, ça va être compliqué. En revanche, pour moi qui ne le suis pas encore, c'est vraiment une super opportunité pour acheter quelque chose.
Pour acheter moins cher.
On y vient ?
Et valoriser. On y vient, toujours.
Et valoriser son bien pour faire une plus-value potentielle.
Bon, mais ça, c'est pour les modestes propriétaires, entre guillemets, voire les très modestes propriétaires. Mais l'État va devoir, d'une façon ou d'une autre, agir également. D'abord, probablement, en adaptant le calendrier et sans doute en revoyant, en reparamétrant, d'une façon ou d'une autre, l'aide.
Oui, absolument. L'Allemagne est beaucoup plus ambitieuse en la matière. Elle a accordé un budget qui est un multiple du nôtre. Et donc l'État doit revoir sa fiscalité également, surtout dans un contexte de crise. Je veux dire, là, on a une récession qui s'annonce. Les Français ont déjà du mal à survivre, encore moins pour débloquer des budgets à 25 000 euros pour une rénovation énergétique. Donc
on rappelle, le budget MaPrimeRénov', c'est...
Oh, c'est... Non, je n'ai pas envie.
Non,
non. C'est 10 000 euros maximum par chantier. Mais c'est pas...
Non, mais je vais rebudgéter au niveau de l'État.
Ah, c'est rien. C'est
100
c'est
millions.
Non, quand même. C'est 2 milliards, mais c'est pas...
D'accord.
2 milliards. Alors, ils nous ont dit 2 milliards 4 cette année, mais en réalité...
On rappelle combien on met pour les primes carburants et autres.
Non, bon, voilà. Mais oui, mais c'est toujours le sujet. Mais c'est ce dont on parlait. Mais c'est ce dont on parlait mercredi avec Gaëlle. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, on nous parle effectivement de la crise énergétique, de l'envolée des coûts de l'énergie. Mais encore pour se chauffer, faut-il avoir un logement en fait. Et tout est là. C'est-à-dire que au lieu d'opposer les deux, on pourrait aussi aider à tout financer. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on prend à chaque fois les choses que par un petit bout et on ne règle pas le problème. Effectivement, les délais seront pas tenus. Impossible en l'état.
Les délais et comprendre que de la rénovation énergétique, c'est pas juste de l'isolation, c'est tout refaire.
Ouais, c'est souvent, ça, c'est pas le monogeste, alors que c'est 8 à 9 fois sur 10, MaPrimeRénov', c'est pour des monogestes. Effectivement,
exactement.
Ce n'est pas suffisant.
Ouais, il faut des scénarios globaux avec au moins 3 types de travaux, chauffage, isolation, ventilation, sinon ça marche pas. On gagne pas de lettres. Parfois, il y a des travaux qui sont faits.
Mais du coup, ça vous donne de nouvelles compétences.
Oui, absolument. Mais c'est l'occasion. On commence à avoir des écoles de formation à la rénovation énergétique. C'est assez discret.
Non, mais même chez vous, les gestionnaires, j'entends. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque part, ça vous oblige aussi, et ça vous apporte de nouvelles. Et ça rend finalement, ça vous rend presque encore plus important et crucial dans ma gestion du bien. Les particuliers qui gèrent eux-mêmes, ils sont peut-être moins au fait que vous. Et ça, c'est vrai que ça, c'est un autre sujet.
Ouais, mais on manque quand même de gens formés. Donc, j'invite les gens à se former à la rénovation énergétique et à postuler chez Mastéos. Ah, merci.
Thierry Vignal, le patron de Mastéos, merci d'être passé nous voir en cette fin de semaine. Merci Marie, bon week-end. On se retrouve lundi.
À lundi.
Pour de nouvelles aventures immobilières, le marché parisien, lui, il perd 0,17%, 5926 points. On va voir dans un instant ce qu'en pensent nos traders. Et puis n'oubliez pas non plus les replays que vous pouvez retrouver à votre convenance sur le site ou sur vos plateformes préférées afin d'écouter tout ou partie de l'émission.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
L'heure de retrouver nos deux traders, comme chaque jour à 10h30, pour prendre le pouls graphique de la séance du jour. Mathieu Céron, depuis les bureaux bordelais de Perceval Finance Conseil. Bonjour Mathieu. Et Stéphane Sauduteil, en ligne avec nous depuis technibourse.com. Bonjour Stéphane, merci.
Bonjour
à tous les deux d'être présents au rendez-vous. Stéphane, comment voyez-vous ce marché qui semble se refuser les 6000 points depuis maintenant plusieurs jours?
Oui, c'est vrai. Bah, écoutez, on digère quand même cette forte progression. Il y a quasiment une semaine, on était 7% plus bas. Donc, c'est bien normal qu'on fasse une pause. Et puis, c'est vrai que les marchés attendent, bien sûr, un des chiffres de l'emploi américain cet après-midi, le NFP. Donc, on sera toujours un petit peu dans la même thématique. Hein. Une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle sur le front de l'emploi sera une bonne nouvelle pour les marchés et inversement. Donc, en fait, ce qu'il va falloir observer sur le CAC 40, c'est deux niveaux qui me semblent assez bien identifiés ce matin. On va trouver 5900 points. Si on commençait à passer en dessous des 5900 points et qu'on s'y maintienne, surtout après les chiffres de l'emploi, ben ça serait plutôt un mauvais signal envoyé au marché avec une probabilité de rechute minimum hein, d'une cinquantaine de points, voire une centaine de points. On pourrait se retrouver entre 5850 et 5800 points ce soir. Par contre, si les chiffres de l'emploi sont très dégradés, en fait, hein, ça voudra dire qu'il y aura peut-être un espoir de moindre hausse des taux d'intérêt, et donc le marché pourra remonter et déborder. S'il déborde 5960 points, eh bien on pourra reviser de nouveau, peut-être cet après-midi ou en fin de soirée, les 6000 points, voire le plus haut de cette semaine, vers 6065 points à peu près. Donc on a un marché très attentiste, et c'est vrai que tout va se décanter malheureusement à 14h30, certainement. Donc tout reste ouvert, je pense. Hein, on ne peut pas prendre de pari à l'heure actuelle sur une baisse ou une hausse du marché. Il va falloir malheureusement attendre le chiffre et être un petit peu rapide si on veut essayer d'en profiter. Mais attention quand même aussi, des fois on peut avoir des contre-pieds assez sévères, partir à la baisse et puis repartir en sens opposé très rapidement. Donc il va quand même falloir être un peu prudent les 10 minutes qui vont suivre la publication des chiffres de l'emploi à 14h30. Mais bon, ce marché est quand même pas si mal que ça, hein, si on reste au-dessus des 5900 points tout au long de cette journée.
Mathieu Cérone, même constat, c'est à 14h30 que tout peut se jouer ?
Bah, il s'est joué pas mal de choses déjà depuis le début de la semaine tout de même, parce que bon, on a vécu une semaine historique. En tout cas, moi, je me rappelle pas d'un tel mouvement en si peu de temps, sans aucun catalyseur nouveau. 7% de reprise sur la plupart des indices en quelques heures, sans nouveauté. À la rigueur, la seule nouveauté était même un catalyseur baissier en début de semaine, avec la tourmente autour de Crédit Suisse, avec des anticipations baissières qui ont été prises à contre-pied. Et puis derrière, on a eu une nouvelle fois l'illustration d'un marché qui reste vide de conviction, mais drivé par les pressions techniques, le trading algo, la spéculation qui se prend les pieds dans le tapis. Et c'est pour ça que toute cette mécanique-là s'est emballé. Et puis à un moment donné, quand on est allé jusqu'au bout des pressions techniques, le marché, qu'est-ce qu'il fait ? Il cale, ce qui s'est passé autour des 6040, et puis il revient en arrière, un peu dans le même esprit, complètement dans le vide. Donc on a une phase de marché qui est très particulière, qui n'est pas facile à travailler, puisque on le voit bien, il y a pas de tendance, on peut pas parler de tendance sur ce marché-là. On a une succession de mouvements qui sont violents, car pas de contrepartie, tout le monde va dans le même sens au même moment. 7% de reprise, 2,5 hier, puisque le futur à 8 heures à l'ouverture, on était au-delà des 6050, et puis derrière baisse en ligne droite, et ce qui a arrêté, on va dire, le mouvement de baisse, c'est la clôture à 17h30. Donc c'est une situation très particulière. En même temps, nous, dans notre scénario principal, on a toujours du mal à imaginer une hausse solide et durable. Donc c'est pour ça que quand les marchés flambent un petit peu, comme ça a été le cas en début de semaine, on n'hésite pas, alors pas n'importe comment, mais on n'hésite pas à mettre en place des stratégies baissières avec des calls qui ont été achetés précédemment, et on a largement eu le temps de le faire point bas, ce qui nous a permis de vendre un petit peu de futur. Donc nous, on aborde toujours cette phase-là d'une manière un petit peu baissière, tant qu'on est au moins sous les 6160, en privilégiant des ventes sur rebond, mais en étant extrêmement prudent. Vous voyez, dans cette situation-là, étant donné que les indications directionnelles ne sont pas clairs, il y a deux attitudes à adopter. Soit une attitude, on va dire, dynamique, où il faut faire preuve de mobilité, soit une attitude, on va dire, un petit peu plus statique, mais couverte. Donc, il faut pas un entre-deux, parce que sinon, on va se faire embarquer assez facilement. Quand on regarde du côté des valeurs, c'est pareil. Hors CAC, il y a quand même une crise de confiance. Vous avez des dossiers qui sont littéralement massacrés, des mouvements qui sont extrêmement violents. Vous prenez par exemple le cas d'Eramet. Eramet, on a une dégradation hier de la part d'Exane, me semble-t-il. C'est pas non plus bien méchant, 20% de baisse. Donc c'est très surprenant, c'est stupéfiant quand même ces mouvements-là. Et retenez une chose, c'est qu'une forte instabilité du prix, ce que nous rencontrons un petit peu partout, c'est pas sain. C'est pas sain, mais en même temps, ce que l'on répète depuis pas mal de temps déjà, c'est que, étant donné que tout le monde a conscience des problèmes, a conscience des nombreuses menaces, eh bien ces marchés-là, ils peuvent pas véritablement partir en vrille. On l'a vu, malgré des nouveaux plus bas un petit peu partout, sur le SP500 fin de semaine dernière, sur le CAC lorsqu'on a approché les 5006, eh bien, il n'y a pas eu de conviction baissière, parce que ceux qui sont présents sur le marché, eh bien, sont soit couverts, soit peu investis, en tout cas ont conscience des nombreuses menaces, du danger, et donc n'agissent pas sous la contrainte. Donc ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête, et on le voit également au niveau de la volatilité implicite. Prenons par exemple le VIX, la volatilité implicite sur le SP500. Vendredi dernier, on était à 32 de volatilité, donc le VIX était à 32, malgré un plus bas, donc 32, c'est une volatilité quand même assez forte, mais avec la reprise derrière de 7% aussi, elle a très peu baissé en définitive, elle est tombée à 29. Donc on voit bien qu'il y a aucune complaisance sur ce marché, que tout le monde est méfiant, c'est ce qui les protège. Mais en même temps, vu le manque justement de conviction, le manque de contrepartie, on a des mouvements violents et cette situation devrait durer.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc Mathieu Cérone depuis Perceval Finance Conseil et Stéphane Sauduteil depuis Technibourse. On vous retrouve tout à l'heure, Stéphane, à 11h30 pour suivre cette séance. Séance qui se veut donc pour le moment hésitante et baissière, moins 0,13%, 5 928 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Deux Français sur trois jugent qu'il y a trop d'assistanat. C'est en tout cas ce que révèle un sondage Elabe pour l'Institut Montaigne et les Échos. Que nous dit cette enquête ?
Bien que le système social n'incite pas au travail, n'incite pas à l'effort, ils sont 65% à le penser. Dans l'enquête, on apprend que 44% considèrent que les aides sociales, tout confondu, sont trop hautes. Les quatre domaines cités en le top 4 des domaines les plus socialement accompagnés sont le chômage, la famille, le logement, la santé. Puis en queue de peloton arrive la retraite, où là, 75% des sondés considèrent que les aides, pour le coup, ils sont trop faibles. Ça rappelle un peu cette question posée par l'Institut Elabe à celle qui était posée par Odoxa pour BFM Business dans l'enquête mensuelle qu'on a dévoilée hier. On demande aux gens, à votre avis, pourquoi il y a des boulots d'un côté et des gens de l'autre ? Et on n'arrive pas à 47% des sondés, je dis bien, c'est pas une enquête, c'est pas une étude économique, 47% des sondés disent bah oui, les chômeurs sont responsables. En fait, ils préfèrent refuser des jobs pour ne pas perdre les avantages de l'assistance sociale, de la protection sociale. 47% en face, 52% disent non, ils ne sont pas responsables. S'ils sont au chômage, c'est parce que soit les conditions qu'on leur propose sont totalement pourries, c'est la condition de travail, soit leur profil ne correspond pas à ce que recherchent les entreprises. Mais quand même, 47% vont dans l'idée que, allez, on va appeler ça la préférence pour le chômage, si tant est que ce soit une notion qui soit audible, en tout cas qui n'est pas une notion économique.
Est-ce que les Français ont raison de dénoncer l'assistanat ?
Alors, quand on dit, quand on dénonce l'assistanat, qu'on trouve qu'il y en a trop, on n'est pas sur un raisonnement économique. On est sur un ressenti politique, un réflexe d'indignation, et on répond avec son intuition. Voilà, c'est pas quelque chose de scientifique. Il semblerait visiblement que 2/3 des Français soient dans le camp de Fabien Roussel. Oui, à la gauche du travail, non à la gauche des allocs. Et là, on est bien sur un terrain purement politique. Après, que nous dit l'économie quand on regarde ce sujet ? Plus de la moitié de la dépense publique, c'est de la dépense sociale. Attention, dépense sociale, c'est pas de l'assistance. Il y a la retraite, la santé dans la dépense sociale. La retraite, c'est pas de l'assistanat. En tout cas, plus de la moitié de la dépense publique, c'est de la dépense sociale, à peu près. Presque 800 milliards d'euros sur les 1300 de dépenses publiques. Ensuite, la redistribution après impôt est la plus efficace du monde en France. Ce qui fait qu'on a l'un des taux de pauvreté de l'OCDE les plus bas, le plus bas d'ailleurs de l'OCDE. Après, la durée d'indemnisation au chômage est clairement la plus élevée du monde. 24 mois et jusqu'à 36 mois pour les plus âgés. Dans la grande majorité des cas, toutes les enquêtes qui ont été menées confirme que quand même la grande majorité des demandeurs d'emploi cherchent un job. Ils sont pas là à se la couler au chômage.
Ouais.
Ensuite, il est des cas très difficiles à quantifier où quand vous faites l'arbitrage entre eux, vous n'avez pas de qualification, vous pouvez pas prétendre à un gros salaire. Alors vous regardez ce que ce petit salaire peut vous apporter, puis vous regardez ce que la protection sociale vous apporte de l'autre côté, et vous êtes un être de raison et rationnellement vous vous dites est-ce que j'ai vraiment intérêt à travailler ? Il y a des cas, mais encore une fois, difficilement quantifiables.
Ouais.
Mais en tout cas, on ne vit pas bien avec 10 minima sociaux. Ça, c'est une première chose. L'assistance sociale, on va peut-être me trouver quelques cas, mais ne paye pas plus que le travail. En aucun cas, le RSA ne rapporte plus qu'un SMIC. Le RSA cumulé avec tout ce qui pourrait aller avec ne rapporte plus qu'un SMIC. Et les minima sociaux en France, là, je parle bien des minima, pas de la dépense sociale, mais les minima sociaux en France sont dans la moyenne des pays européens. Voilà des données connues, celles-là. Et c'est pas des données aux doigts mouillés.
Est-ce qu'il existe des réformes pour tenter tout de même d'éviter les effets d'aubaine, les désincitations?
Alors, je pense que c'est la bonne question parce que les réflexes d'indignation, c'est sympa, c'est toujours les mêmes. Il y a toujours 2/3 qui sont du même avis. Globalement, ceux qui bossent considèrent que ceux qui bossent, bref. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Je pense que l'élément central, c'est la réforme de la assurance chômage. Toutes les enquêtes, encore une fois, renseignées, empiriques, ont prouvé que le paramètre qui, effectivement, avait une incidence sur le retour à l'emploi, c'était la durée d'indemnisation. Plus on indemnise peu de temps, moins la période de chômage est longue. Et d'ailleurs, récemment, Stéphane Garcio, qui est l'un de nos spécialistes en France à l'OCDE de cette question, a publié une note, enfin un papier dans les Échos, indiquant qu'on observe qu'un mois d'indemnisation en moins égale 10 jours de chômage en moins. Donc là, il y a un lien. Là, il y a effectivement un élément de réforme. Après, on regarde notre système tel qu'il a été conçu après-guerre. On n'est plus après-guerre, on est en 2022. On a fait un système socialisé où celui qui travaille paye pour le chômeur, celui qui est en bonne santé paye pour celui qui est malade, l'actif paye pour le retraité. On n'est plus maintenant en 1947, 48, 49, 50, on est en 2022. Quand on se pose la question des retraites, ou alors qu'on tend vers un actif égal à un retraité, à l'époque c'était 4 actifs pour un retraité, l'idée d'introduire un peu de capitalisation, un peu, à côté de la répartition, franchement l'idée mérite qu'on se la pose. Et en plus, mais ça on le refera une autre fois parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais on peut considérer que un peu de capitalisation dans la répartition, c'est une forme de réforme de gauche. D'ailleurs, je rappelle que la population qui bénéficie de capitalisation et qui ne s'en plaint pas aujourd'hui sont les fonctionnaires. Et puis sinon, je dirais que la troisième réforme et la plus importante, c'est évidemment la formation. Parce que si vous êtes formé, là, quand vous regardez ce que vous apportez le revenu du travail, le salaire auquel vous pouvez prétendre par rapport à ce que la protection sociale peut vous apporter, là, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de question d'arbitrage. Voilà.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas, bon week-end, on se retrouve lundi. Et d'ici là, on va jeter un œil sur les marchés.
Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
Le marché parisien qui, en ce moment, attend. Il attend, les yeux rivés sur 14h30 et l'emploi américain. Donc il attend prudemment son niveau de clôture d'hier soir, sous les 6000 points. On perd 0,16% à 5926 points. Cette situation que l'on observe à Paris, elle prévaut également ailleurs en Europe, puisque l'Eurostock 50 a même un repli un petit peu plus marqué, moins 0,4% en ce moment pour l'indice des grandes valeurs de la zone euro. Côté palmarès à Paris, jetons un œil sur ces valeurs qui entraînent l'indice dans le rouge. On a du ST Micro, moins 2,31 à 34,73. On a Capgemini, moins 2,02 à 167,50. Et Dassault Systèmes à 36,39 qui perd un 26%. Au total, on a quand même une petite dizaine de valeurs en baisse de plus d'1%. Quelques hausses quand même et qui ne sont pas anecdotiques puisque Renault reprend 4,05% à 30,43€. Safran plus 1,2 à 100,64€. Et Total Energy qui prend 0,94% à 51,75. Voilà pour les principaux arbitrages. Du côté des devises, l'eurodoll est à 98,09 et puis le pétrole qui continue de grimper, 94,90 désormais.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Sarah Thirion et François Meunier sont en plateau. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et merci d'être au rendez-vous. Sarah pour TPI Cap, François Meunier pour la rédaction d'Investir. François, à quoi faut-il attribuer ce rebond de plus de 4% du CAC mardi ? C'est vrai qu'on s'était dit, on est de retour dans un autre monde. Et puis, finalement, non. Bon, et en plus, on doit constater que c'est assez rare, une telle hausse en une séance.
D'abord, c'est pas si rare que ça dans les marchés baissiers. Dans les marchés baissiers, on a un peu plus de volatilité que dans les marchés haussiers. Et surtout, on a des rebonds dans des périodes qui arrivent après des séances, on va dire, de survente, où le pessimisme avait peut-être été un petit peu trop exagéré. Et puis surtout, ce qu'on a pu voir, c'est que le marché a basculé. On recherche maintenant des mauvaises nouvelles pour avoir des hausses en bourse. Je m'explique. On recherche des signes de ralentissement économique pour avoir la confirmation que ça y est, on se rapproche d'une récession, pour se dire finalement les banquiers centraux vont peut-être être un peu moins sévères sur le durcissement de leur politique monétaire, et donc ça ira mieux après et que l'inflation va se calmer. Donc on guette les mauvaises nouvelles, on guette les signes de ralentissement, parce qu'on se dit que finalement ça y est, une fois qu'on sera en récession, on va pouvoir reprogrammer une tendance haussière, on va pouvoir estimer que voilà, les choses vont pouvoir aller mieux, et on en a un peu ras-le-bol que la situation se dégrade. Et donc c'est un peu cet état d'esprit qui règne aujourd'hui sur les marchés. Les investisseurs sont impatients, ils veulent pouvoir toucher le point bas, toucher le creux de cette récession, puis voir si cette récession elle est très très forte ou moyennement forte ou extrêmement légère. Donc ils ont envie de savoir, et finalement les mauvaises nouvelles, eh bien elles sont bien accueillies, même si bien sûr ça risque de faire mal parce qu'on voit quand même des signes de ralentissement un peu partout qui se dessinent.
Comment on vit une séance comme celle de mardi sur une salle de marché, là où on vous retrouve régulièrement, Sarah ?
C'est assez intéressant parce que ça montre qu'il y a une capacité de rebond importante des marchés. Si toutefois, il y avait une bonne nouvelle et si elle était factuelle. En l'occurrence, il n'y avait pas de bonne nouvelle du tout. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de remarquer que cette semaine, comme la précédente, en fait, les marchés s'enthousiasment quand ils ont l'impression que les banques centrales vont pouvoir à nouveau revenir à la rescousse. Et ça, c'est intéressant, mais quelque part, c'est un peu angoissant de se dire qu'on est toujours accroché au fait que les banques centrales peuvent nous sauver de tout. Et ce n'est pas le cas. Et il n'y a pas eu de bonne nouvelle factuelle. La bonne nouvelle, évidemment, ce serait qu'il y ait une fin de guerre en Ukraine, ce qui soulagerait l'inflation. Et donc, du coup, effectivement, amènerait les banques centrales à être moins vigoureuses dans leur resserrement monétaire. Ce qui est sûr, c'est que, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à 14h30, on va avoir le rapport mensuel de l'emploi américain, et que les banquiers centraux américains, cette semaine, n'ont pas lâché le trait. Ils sont très déterminés à continuer de lutter contre l'inflation. On est loin d'avoir atteint, effectivement, les niveaux qui permettent aujourd'hui d'anticiper, en tout cas, un relâchement dans la stratégie de la politique monétaire. Et donc, on va rester sur ce rythme effréné. Donc, si c'est ça qui doit faire rebondir les marchés, erreur pour l'instant. Il faut trouver un autre signal que celui-là.
Alors, on a vu avec vous deux comment ça avait fonctionné un peu mardi, qu'est-ce qui expliquait tout ça. Est-ce que malgré tout, il y a des enseignements à tirer de cette journée? Bon, peut-être pas si atypique, mais qu'il l'est quand même un peu.
Il y a deux grands enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'il ne faut jamais sortir complètement de la bourse. Il ne faut jamais vendre toutes ses actions. Parce que là, on a des statistiques sur longue période qui ont reconfirmé que si vous ratez quand même plus de 4%, c'est quand même dommage en une seule séance. C'est deux fois le rendement du livret A. D'abord, quand on regarde sur longue période, si vous gardez vos actions 10 ans, vous avez 97% de chances de gagner de l'argent. Donc la bourse, c'est du temps long. Il faut être patient. Il faut aussi, on a la démonstration que si on rate des bonnes séances, eh bien ça détruit complètement la performance d'un portefeuille. Si on regarde un peu ce qui se passe entre 99 et 2021, mm-hmm. vous avez à peu près 6000 séances. Si vous accompagnez le marché pendant les 6000 séances, eh bien vous gagnez en moyenne 6,5% sur le marché américain. Si vous en ratez 10, les 10 meilleurs, eh bien, votre performance sur votre portefeuille de 99 à 2021 est déjà réduite de moitié. Vous êtes à 3,5%. Et si jamais vous ratez les 40 meilleures séances, eh bien, vous avez un portefeuille qui est négatif sur l'ensemble des 6000 séances.
Donc le market timing.
Donc dire que on vend tout, on achète tout, c'est contre-intuitif et en tout cas ça détruit de la performance. Donc ça c'est le premier enseignement et ça montre que vraiment il faut toujours rester investi. Alors après plus ou moins, bien sûr en fonction de votre appétit pour le risque, de vos besoins éventuellement de financement et puis il faut bien sûr toujours diversifier ses placements, mais il faut jamais sortir complètement de la bourse. Ça c'est le premier élément. Le deuxième enseignement, eh bien c'est qu'on sait maintenant que lorsque le marché va repartir, parce que là pour l'instant on est plutôt sur un marché baissier, quand le marché va repartir et va s'inscrire dans une tendance haussière, eh bien on sait les valeurs qu'il faut avoir en portefeuille. On a cette démonstration sur une seule séance et c'est ce qui peut se passer sur un mois, sur trois mois, lorsque le marché va réamorcer une reprise haussière durable. On l'a vu, les titres qui ont été recherchés mardi, il faudra s'en souvenir, eh bien c'est le luxe. On a vu LVMH, Hermès très très bien se comporter, ainsi que Essilor Luxottica si vous le mettez dans le luxe. On a vu que Schneider, AXA, Alstom progressaient quasiment deux fois plus vite que le CAC 40, alors que c'était une journée qui était extrêmement positive pour l'indice. Capgemini, très bien orienté. Donc ce sont ces valeurs-là qui, a priori, là on a eu une phase test, j'ai envie de dire, parfois on fait des tests de stress, là on a eu un test de forte hausse du marché, et bien ce sont ces titres-là qui devraient être les plus à même de repartir fortement lorsqu'on aura à nouveau une tendance haussière.
Vous cautionnez, vous validez ces deux finalement enseignements que l'on peut tirer d'une séance comme celle-là?
Oui, c'est important de se rappeler que on est sur des temps longs. Donc, quand on investit en bourse, si on investit à une semaine ou à un mois, on n'aura pas forcément raison dans des environnements comme ça. On aura forcément tort. Et d'ailleurs, bien heureux celui qui, depuis le début de l'année, arrive à surperformer le CAC 40 puisqu'il y a deux valeurs dans le vert depuis le début de l'année. Donc, c'est très difficile, capable d'imaginer un investissement en bourse avec un horizon qui ne serait pas long. C'est vrai que ces périodes de ralentissement sont en revanche éminemment propices pour aller trouver des points d'entrée, des débuts de points d'entrée sur des valeurs qui ont été particulièrement massacrées. Et évidemment, quand on est dans un contexte de remontée des taux, les valeurs de croissance ont été notoirement massacrées. Donc, si on n'a plus cette épée de Damoclès un jour au-dessus de nos têtes, c'est bien évidemment dans cette direction qu'il faudra regarder. Valeurs de croissance, cyclique de qualité.
Mais forcément, vous êtes sur le marché tous les jours, mais ce que dit François, voilà, c'est quand même dingue. Hein. 6000 séances, si on en manque 10 et on divise notre performance par deux.
Exactement.
On manquait le mois d'août, on manquait l'été sur le CAC 40. Ouais, là, c'était dramatique.
Ouais, carrément.
Donc voilà, donc il faut rester investi. Alors après, le truc facile dans des périodes comme ça, c'est d'acheter des trackers sur indice et puis on fait l'indice. Bon, voilà. Donc, mais c'est pas ce qu'on privilégie puisqu'on essaie de trouver des bonnes idées.
Alors justement, on va voir ce qu'il faut faire, parce que la question qu'on se pose aussi une fois qu'on est rendu là sur quoi 5009, 5008, c'est de se dire est-ce qu'on est au plus bas ou est-ce que ça va glisser encore ?
Il y a des chances qu'on n'ait pas encore tout à fait touché le point bas. D'abord, il faut voir que dans cette séance, cette belle remontada du marché, il y a eu ce qu'on appelle les rachats de short. Il y avait des investisseurs qui ont couvert leur portefeuille et lorsqu'ils ont vu que l'instrument de couverture ne rime à rien parce que le marché repartait, ils ont débouclé, ils ont perdu un petit peu d'argent, je pense. Mais les fondamentaux, c'est ça qu'il faut regarder, restent extrêmement fragiles. Là, on monte parce que l'économie se dégrade et que les investisseurs anticipent que les banquiers centraux arrêtent cette hausse de taux. Mais on voit bien que l'inflation reste extrêmement élevée. Et la priorité, quand même, pour les banquiers centraux, c'est de calmer un petit peu cette poussée inflationniste. 10% dans la zone euro, 8% aux États-Unis, quand on sait que l'objectif est de 2%. Alors, on sait très bien que les banquiers centraux n'arriveront quasiment pas, pendant les prochaines années, à revenir à 2%. Mais revenir à 4%, ce serait déjà un exploit. Et donc, on en a encore très, très loin. Et donc, il est trop tôt pour se dire, finalement, que le durcissement monétaire, il est derrière nous et que tout va bien. Donc, on risque d'avoir encore, hélas, des semaines un peu compliquées sur les marchés.
Vous pensez également que le point bas est encore devant nous ou pas ?
Si on n'a pas de solution en Ukraine, s'il n'y a pas d'arrêt du conflit en Ukraine, c'est clairement, malheureusement, la triste hypothèse. Alors, aujourd'hui, on a évidemment moins de complaisance de la part des analystes. Ils ont tous retravaillé leur modèle. On a tous fait remonter les taux sans risque. On a tous ajouté de l'inflation en 2023. Mais personne n'a intégré un scénario de récession. Donc, si demain, on doit retravailler tous nos modèles avec l'hypothèse d'une récession...
Aujourd'hui, c'est pas encore
personne n'a intégré de récession. Donc, on a intégré
alors que
une croissance,
même nos banquiers centraux le professent, quoi.
Alors qu'on a intégré un ralentissement, mais je doute qu'il y ait sur la place un analyste qui a intégré une récession dans ses chiffres 2023.
Bon, au boulot, les gars.
Oui, il y a du retard. Mais alors, les analystes se retranchent, j'ai envie de dire, derrière les patrons qui restent globalement assez optimistes.
Donc, c'est-à-dire que l'heure de vérité, ça va être, oui, d'accord, les grandes statistiques qui nous disent un petit peu, mais ça va être aussi cette période de publication de résultats qui va reprendre.
Voilà, on va regarder un petit peu. On sait qu'on sort d'un premier semestre qui a été extrêmement bon. Donc, tout le monde est sorti des semestriels assez optimistes. Au troisième trimestre, on devrait quand même trouver quand même quelques poches d'inquiétude avec... des volumes qui se tassent, voire qui décroissent, du pricing power qui est un peu moins fort, parce que c'est facile d'avoir du pricing power quand vous avez des très fortes hausses de volume, mais quand il y a moins de clients, dire on va encore augmenter les prix, ça marche généralement moins bien. Et donc on devrait avoir quelques signaux. Ça sera pas forcément un discours alarmiste, parce que le discours alarmiste risque d'arriver plutôt à la fin de l'année, lors de la période des publications des résultats annuels, avec un quatrième trimestre qui pourrait être vraiment mou. Là, on aura, je pense, un troisième trimestre qui sera mitigé. Et c'est vrai que les analystes, pour l'instant, n'ont pas intégré une récession dans leur modèle économique, parce qu'on est toujours sur des croissances de bénéfices en 2023 dans la zone euro, sur l'Eurostoxx 600, donc les 600 grandes entreprises européennes. Mm-hmm. On est sur une croissance des profits. Et ça va être un véritable exploit d'afficher une croissance des profits lorsqu'on sait que l'Allemagne, normalement, c'est ce que disent les instituts de statistiques macroéconomiques, que l'Allemagne devrait être en récession. Et l'Allemagne, c'est quand même un peu le navire amiral économique de cette zone.
Ces publications, elles vont être vraiment le facteur, enfin le révélateur.
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que d'abord le Q3, le troisième trimestre n'est pas très représentatif dans une année. Juillet, août, il se passe pas grand chose, à part pour le secteur des loisirs, enfin de l'hôtellerie. Et le mois de septembre, voilà, n'est pas forcément clivant, surtout cette année. Retour de vacances, revenge tourisme, le reste des impôts qu'on n'avait pas payés éventuellement si on en a gagné plus d'argent que l'année précédente. Donc, ce troisième trimestre, il ne va pas être très révélateur et les sociétés, en fait, naviguent complètement à vue. Elles ne savent pas quel est le potentiel du PIB l'année prochaine. Elles ne savent pas dans quelle proportion l'inflation va perdurer. Elles ne savent pas de combien vont être les surcoûts. Elles n'ont aucune idée de l'évolution de l'euro-dollar. Enfin, tout autant d'éléments qui, aujourd'hui, compliquent la donne. Donc, je pense qu'on aura plus de coming out sur la publication des résultats annuels que sur les publications de Q3.
Merci à tous les deux, François Monnier, Sarah Thirion qui nous accompagnait pour cette première mi-temps, entre guillemets, deuxième mi-temps tout à l'heure avec les réponses aux questions. François Monnier pour investir, Sarah Thirion pour Tipeee, iCap pour nous écrire, BFM Patrimoine at bfmbusiness.fr. Et puis n'oubliez pas non plus les replays qui vous permettent de retrouver la partie que vous souhaitez de l'émission à votre convenance, que ce soit sur notre site ou encore sur vos plateformes préférées. A tout de suite.